The Days of Youth. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Lebouy du groupe City of Exiles. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors Guillaume, on te reçoit avec plaisir au studio de Mémac pour nous parler du dernier né de ton groupe, donc un nouvel album qui s'appelle Sleeper Hunter.
Oui, merci déjà pour l'invitation. Donc oui, on vient de sortir un troisième album avec le groupe City of Exiles. Donc cet album vient un an après Dead in Hollywood. C'est un disque voilà, qu'on a enregistré l'année dernière tout simplement, et on l'a sorti dans la foulée. Il est disponible à la fois en vinyle, en CD et sur le net. Voilà.
Alors on va revenir un peu dans la longueur sur l'album. On va peut-être parler un petit peu du groupe City of Exiles. C'est un groupe, alors toi tu habites Mémac, mais ce n'est pas le cas de tous les membres du groupe. Vous êtes un groupe métropolitain.
On est un groupe déjà à géométrie variable, c'est-à-dire que les membres changent en fonction des opportunités et des disques, des moments, des enregistrements. Et c'est vrai que les enregistrements se font chez David Fontaine, donc qui est un des membres du groupe, hein, City of Exiles. Il a un studio et ils se font en Normandie, donc du coup, il y a pas mal de Normands déjà qui jouent. Qui habite soit au Havre, soit à Rouen, ou également dans le Lot, et moi-même à Mémac. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu dispersé sur le territoire.
Alors comment on travaille quand on est dispersé comme ça?
Pour cet album-là, pour Sleeper Hunter, on a travaillé un peu différemment. Là, j'ai beaucoup plus travaillé, en tout cas en amont, mes démos. J'ai fait pas mal de démos sur un logiciel qui s'appelle GarageBand, tout simplement. Et on a fait pas mal de va-et-vient avant même d'entrer en studio. Ce qui a permis sans doute d'avoir des morceaux un peu plus construits dans au niveau de leur mélodie. Voilà, donc ça c'était déjà un premier travail. Et ensuite on s'est vu sur deux sessions. Donc, c'était très très court, hein, avec les musiciens. Donc de 3 à 4 jours, les sessions de 3 à 4 jours, afin de faire tout ce qu'on ne peut pas faire seul, hein, la batterie, la basse, la guitare avec des vrais sons. Et voilà, comme je suis un guitariste assez limité, ça a permis que Fabien Sonnet, qui est un guitariste aguerri du groupe, notamment Animal Triste, puisse poser des guitares. Donc voilà, on a réussi à avoir un album cohérent, et surtout le but c'est vraiment, depuis le début, hein, pour City of Exile, c'est que le collectif transcende finalement la proposition initiale, donc les démos, les petites démos que je transmets aux musiciens.
Ça, enfin, toi, tu composes, c'est ça?
Oui, je compose, je pose une mélodie en fait sur une grille d'accords, qui peut d'ailleurs changer, hein, cette grille d'accords. Mais en tout cas, oui, la base vient de mes démos. Mais c'est vraiment le collectif, en tout cas, qui permet en fait de donner le son de City of Exiles.
Alors ce collectif, on va peut-être lui donner des visages. Donc outre toi, donc chant et guitare, oui. On a un autre guitariste, donc Mathieu Forest,
tout
qui
ne fait
pas que de la guitare.
Non, Mathieu Forest, donc il joue également des claviers, et notamment un clavier qu'on a apprivoisé sur l'album précédent, qui est un Harp Omni. Donc c'est un clavier des années 70 que David Fontaine, donc qui est dans son studio, en fait, il a trouvé par hasard dans une poubelle. il l'a fait réparer. Et
c'est analogique, du coup, c'est ça?
Oui, c'est un superbe clavier avec des sons très typés, surtout des sons de basse, donc qu'on retrouve dans les premiers disques de Prince, par exemple, ou sur des disques de Bowie. C'est un clavier finalement qui a été fait sur un laps de temps très court, hein, qui a été produit sur 3-4 ans. Donc on a cette chance là d'avoir ce clavier qui donne un son qui sort un petit peu des sentiers battus et qui donne un peu la couleur de l'album. D'ailleurs,
c'est les nappes qu'on entend sur ce qu'on vient d'entendre, sur des aigus.
Notamment il y a des nappes, et surtout On a travaillé un peu sur ce disque-là en partant justement du clavier. C'est-à-dire qu'on a dédié toute une session avant, parce que logiquement, enfin, s'il y a une logique dans un enregistrement, en tout cas, normalement, on doit poser un peu les parties rythmiques. Et là, on a posé en fait le clavier, donc ce qui a donné la couleur. Donc Mathieu Forest a donné vraiment la couleur de l'album avec des sons un peu fantomatiques. Et voilà, cette espèce de bas en fait qui tout de suite nous happe. Donc ça a donné un côté un peu, oui, un peu fantomatique, un peu, alors je ne vais pas dire magique parce que ça serait un peu prétentieux, mais en tout cas il y a cette couleur là. En tout cas moi je trouve que le son du Harp Omni a toute son importance, et le travail de Mathieu Forest a vraiment été primordial sur ce disque.
Il a un peu créé la toile sur laquelle vous avez pu
exprimer
vos motifs, quoi.
Exactement, exactement. Après, c'est vrai que donc il y a eu un gros travail donc d'un autre Mathieu, donc de Mathieu Pigné, qui joue de la batterie sur le disque, qui lui a vraiment cherché en fait à casser ce qu'on pouvait entendre dans un premier temps, parce que quand on a une chanson, on peut entendre tout de suite des rythmiques un peu de manière naturelle, et lui il a essayé de casser un peu les choses, notamment je pense à un titre en particulier qui est une reprise d'ailleurs, In Hammer's Door, de qui est une chanson à la base de Cohen, de Leonard Cohen,
qui est un poème même, c'est ça,
c'est un peu plus complexe, mais on en parlera peut-être après, oui. Et donc du coup le Il a cassé vraiment il a donné un peu du mordant en fait dans son jeu de batterie, ce qui a sorti la chanson du côté un peu balade, qui lui donne un peu plus de texture en fait.
On va finir un peu le tour des membres du groupe. Donc on a parlé de Mathieu Pigné à la batterie. Alors un autre clavier, David Fontaine.
Alors David Fontaine, oui, David Fontaine qui enregistre un peu notre sorcier un peu du studio, parce qu'il ajoute des claviers, ce qu'on appelle la post-prod. Donc il ajoute des claviers, il passe énormément de temps en fait sur le pré-mixage, parce que là ça a été mixé par quelqu'un d'autre, mais en tout cas il fait un énorme travail, et là il a posé tout un tas d'autres claviers qui donnent aussi un peu plus de texture. On retrouve également Fabien Sonnet, dont on a parlé précédemment, donc aux guitares, qui lui a fait un énorme travail sur les guitares électriques. Fabien est venu une ou deux journées, donc c'est vraiment des laps de temps très courts pour un album.
D'ailleurs, on n'a pas dit, c'était enregistré en Normandie, du coup.
En Normandie, oui, à côté d'une ville qui s'appelle Brionne. On retrouve également David Fesque, dit Darko, voilà, qui lui est venu, c'était encore assez amusant, il est venu une nuit pour poser des basses.
Il porte bien son nom alors.
Et voilà, il posait toutes ses basses, donc il a fait ça en une traite également, donc c'était vraiment très généreux de sa part. Et puis on retrouve deux intervenants donc, qui ne sont pas, proprement parler, membres du groupe City of Exile, mais qui ont participé au disque. Louise Day, donc, qui est une jeune chanteuse, une jeune artiste, qui a doublé pas mal des voix que j'ai pu moi-même poser, et apporté des chœurs assez originaux, qui donnent aussi le côté un peu, on va dire, plus caressant en fait de l'album. Et puis un autre musicien qui s'appelle Raphaël Campana, qui lui a travaillé sur deux titres en particulier, donc Deary, qu'il a presque, on va dire, produit, et puis Dying is Ecstasy, qui a un autre titre un peu plus pop, donc il a donné sa propre couleur, il a chanté dessus, fait des guitares, et puis proposé aussi des arrangements, donc c'était, voilà.
Ouais, donc beaucoup de monde quand même, hein, sur un album qui fait quoi, une trentaine de minutes.
Oui, c'est ça, tout. C'est ouais. Ça, une trentaine de minutes, bah oui, ça, je pense qu'on... en tout cas, dans ce projet, c'est vraiment l'objectif premier en fait, c'est-à-dire de se retrouver, de faire de la musique, de ne pas avoir de plan défini, prédéfini, et de laisser un peu les choses venir en fonction des personnes présentes et des musiciens. Donc c'est tout l'intérêt en tout cas de ce projet de City of Exiles.
Et alors pourtant, avec toute cette diversité et la part de spontanéité qu'il y a dans ces enregistrements, il y a un album quand même assez cohérent, avec, c'est les grands mots, un univers, mais en tout cas, il y a vraiment un voyage qui est proposé. C'est pas fait de briques et de brocs, on passe d'une chose à l'autre, mais on a l'impression de savoir où on va. Moi, je propose qu'on écoute, justement, on en parlait un peu, In Hermos d'Or.
Oui.
Voilà, et on en reparle après.
Merci.
Voilà, donc on... Alors on n'entend pas la voix de Leonard Cohen, mais on entend ses mots. Il y a quelque chose dans la phrase qui est vraiment... Qu'est-ce que ça fait de travailler sur un texte de Leonard Cohen, déjà? Ça peut être un peu impressionnant, non?
En fait, je l'ai un peu fait par jeu au départ. Donc, j'ai acheté un... Je ne savais pas qu'il y avait une chanson, parce qu'il y a une chanson qui est originale de Leonard Cohen, donc In Amers d'or. Mais je connaissais pas la chanson. Et donc, j'ai acheté un livre de textes de Leonard Cohen. Et je pensais qu'il s'agissait de textes inédits. Donc, il n'avait pas été utilisé pour des chansons. Et par jeu, en fait, j'ai ouvert un peu au hasard, je suis tombé sur cette chanson et j'ai trouvé une mélodie assez rapidement, donc qui m'a plu. Donc je me suis dit, bon bah, on va pouvoir travailler la chanson en partant d'un texte. Et plusieurs semaines, voire mois après, je me suis aperçu qu'une chanson existait, donc une co-composition avec une chanteuse, Anjani Thomas. Et donc du coup, voilà, j'étais un peu surpris, mais notre mélodie n'a absolument rien à voir avec celle d'origine, qui est plutôt, on va dire, du jazz.
Oui, c'est une chanson qui n'est pas interprétée par Leonard Cohen. Quoi. Elle a été écrite par Leonard Cohen pour Anjani Thomas, mais pas interprétée.
Elle en écrit quand même, elle a participé à la mélodie. Peu importe. Comme on était très content du travail qu'on avait fait dessus, on l'a proposé sur l'album. De toute façon, elle est créditée uniquement de Leonard Cohen et Anjani Thomas, mais la mélodie est complètement différente de la chanson d'origine. Voilà, donc c'est des choses un peu, c'est le hasard un peu des choses, parce que si j'avais connu la mélodie, évidemment je me serais chanté la mélodie d'origine. Voilà.
Alors peut-être c'est le moment de parler d'ailleurs du titre de l'album, parce que c'est peut-être un lien. Donc Sleeper Hunters, de ce que j'ai lu, du coup je ne connaissais pas le terme, mais il s'agit des gens qui recherchent des tableaux inconnus ou qui ont été perdus pour les racheter. Bon, des fois, sans doute faire du profit dessus, voilà. En tout cas, est-ce qu'il y a... là, tu as été recherché ce que tu croyais être uniquement un poème et puis qui, au final, était un texte de chanson, mais peu importe. En tout cas... un de ses sleepers plutôt, de ses œuvres endormies. Il y a quelque chose comme ça de cette quête dans cet album.
Bah, de façon générale, la notion de reconnaissance, de notoriété et aussi de ce qui reste en fait dans l'histoire m'a toujours intéressé et allié aussi au fait, la notion de plagiat en fait dans la musique ou dans l'art en général, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Quand j'ai commencé à écouter de la musique adolescent, j'ai beaucoup écouté Serge Gainsbourg, que j'écoute plus du tout maintenant, mais bon, j'ai quand même beaucoup écouté une époque. Et il s'avère que c'est pas pour rien que François Hardy disait qu'il connaissait bien ses classiques. En effet, il a énormément plagié, ou en tout cas, il s'est fortement inspiré d'œuvres classiques, et également dans les textes. Mais au-delà du plagiat, il y avait cette chose intéressante aussi, c'est le recyclage, déjà. Notamment, je prenais une chanson comme Ford Mustang, où il recyclait une publicité pour la Ford Mustang. Et c'est bon, bref, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et d'un autre côté, l'autre penchant, donc c'est ces personnes qui vont par des recherches ou en tout cas en misant sur une œuvre et dont le but c'est simplement de la faire, d'arriver à remettre un nom connu sur l'œuvre afin de donner de faire une cubi financière, c'est quelque chose qui me surprend toujours. Et voilà, parce que j'avais revu un documentaire sur Léonard de Vinci et c'était la dernière œuvre attribuée à Léonard de Vinci qui en fait est très contestée dans le milieu de l'art. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, parce que finalement, l'œuvre elle-même est assez anodine.
C'est le Christ, c'est ça, le Christi Mundi.
Exactement. Ouais. Et l'œuvre est assez anodine, en tout cas. Et surtout, elle a été refaite au goût du jour. Et parce qu'évidemment, ça a nécessité tout un travail. Et c'est quelque chose qui m'interpelle, parce que finalement... bon, à part l'intérêt financier, bon, j'en vois pas beaucoup. Et surtout, finalement, qu'est-ce qui reste en fait de, est-ce que c'est simplement de nos jours réussir à vendre, à faire une voilà, à vendre plus cher des œuvres, enfin simplement faire des cumuls financiers. Voilà, on a ce cas-là dans la musique également. Le fameux retour du vinyle, finalement, c'est pour les maisons de disques, c'est surtout une opportunité pour revendre des disques plus chers, quand on voit des vinyles à 40 euros, etc. Donc il y a tout ce travail-là, en tout cas, qui m'interpelle. Donc Sleeper Hunter, voilà, c'est pour finir, parce que j'étais un petit peu long sur cette notion, Sleeper Hunter, voilà, c'est quelque chose qui déjà sonnait bien, je trouvais. Et puis, voilà, c'est juste une interrogation un peu plus large que...
Et alors, en préparant un peu l'interview, évidemment, quand on écoute un album en musique, en tout cas pour moi, c'est mon cas, ce qui nous vient en tête, c'est des références. Alors on dit, Nocturama, tous les noms qui tournent autour de votre groupe, j'ai l'impression que vous assumez un certain nombre de choses en termes de références. Là, Leonard Cohen... Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça, en fait? Quand on est musicien, on produit une œuvre, on produit des morceaux, on y met de soi, mais on y met aussi des autres. Donc, cette question, alors, tu appelles ça le plagiat, mais on peut peut-être parler, en tout cas, comment se passent les morceaux, les mélodies, les choses. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel vous travaillez
C'est vrai que Nocturama ou même Boîte Noire Blues viennent de Nick Cave. Donc, ce sont deux albums de Nick Cave. Au-delà du plagiat, je pense qu'on c'est surtout des directions. C'est pas tant le plagiat, parce que là il n'y a pas de mélodie pompée chez Nick Cave ou chez Mark Lanegan ou d'autres artistes qu'on apprécie tous, mais en tout cas dans le groupe, c'est plutôt la direction et le comme un chemin. C'est plutôt le sillon, en fait. Je pense que on ne vient pas de nulle part. Je sais pas, les Beatles avant eux, il y avait Buddy Holly, je pense, qui était à peu près avec des mélodies assez proches, en tout cas dans l'esprit. Quand on est musicien, quand on fait de la musique, quand on a des prétentions, ou en tout cas qu'on a simplement des envies d'artistique, on a forcément soit des références, soit des envies de faire des choses alors c'est pas à la manière d'eux, parce que j'en ai pas non plus un groupe qui singe Queen ou ABBA.
Assez peu, c'est vrai. C'est pas les noms qui viennent tout de suite.
Mais en tout cas, quand on est en studio, simplement quand on passe des soirées ensemble, on écoute énormément de musique, et il s'avère que ces artistes-là reviennent assez régulièrement.
Je crois que c'était quelqu'un comme Dylan qui avait vraiment assumé complètement cette chose d'aller chercher. Alors lui, il allait le chercher peut-être dans un répertoire plus traditionnel, mais c'était quand même des musiciens vivants encore à son époque ou pas décédés depuis longtemps. Et il assumait cette chose-là de reprendre vraiment les choses, de les remâcher, les retravailler, en faire autre chose, mais sans avoir peur, quoi, de dire bah oui, j'ai été piqué ça, telle ligne, voilà, telle mélodie, je la prends à un tel et j'en fais. On sait ce qu'il en a fait. Maintenant, on parle plus de Dylan que des personnes qu'il a pompées, mais enfin pompées, dont il s'est inspiré, en tout cas.
Bob Dylan, c'est vraiment l'exemple parfait, en fait, dans le sens où... moi, je suis un grand fan de Bob Dylan, mais c'est venu assez tardivement, d'ailleurs, et surtout, j'apprécie toutes ces périodes, ce qui est un peu étonnant, parce qu'il a quand même eu des périodes assez en tout cas moins bonnes. Mais Bob Dylan, c'est vraiment l'exemple parfait dans le sens où lui, son grand... Ce qui me plaît chez lui, c'est que... finalement, ce qu'on essaye de faire aussi dans nos disques, c'est que c'est un peu toujours la même chose, mais jamais toujours différemment. Et surtout, il a réussi à trouver de l'énergie toute époque confondue, en allant s'inspirer, en s'inspirant de d'œuvres, alors oui, soit de ses contemporains, soit du blues ou du folk des années 50. Mais en tout cas, voilà, c'est un maître Dylan dans ce sens-là, en effet.
Alors, je propose qu'on avance un petit peu sur l'album. On va avancer presque dans l'ordre, du coup. Et j'avais envie... Non, on revient un petit peu en arrière sur l'album, en fait. J'ai envie qu'on écoute une chanson qui ressort un peu du disque, voilà, qui est un peu différente dans l'ambiance, qui donne autre chose. On va écouter. On l'entend, hein, c'est un peu ce dont tu parlais tout à l'heure quand on parlait de la batterie de Mathieu Pigné, ça déchire la nappe, quoi. Ça, y a quelque chose, on est vraiment dans du rythme voilà, qui vient découper un peu la musique, complètement dans autre chose.
C'est vrai que pour Two Faced Woman, donc c'est une chanson que j'avais construit un peu avec ma petite démo, mais comme je suis un guitariste très limité, voilà, j'avais fait tout un tas de choses un peu bizarres. Et pour ce titre, en fait, en studio, à la fois la batterie et la basse de David Fesque, qui peuvent paraître primaires, on va dire, dans leur abord, donnent toute l'énergie du morceau. Et derrière, donc, Fabien Sonnet a pu reprendre un peu ses idées de guitare un peu tourbillonnante, en tout cas qui casse la mélodie un peu initiale. C'est une sorte de déluge, on va dire. Voilà, c'était un peu notre idée au départ sur ce morceau. Et surtout, ça nous plaisait d'avoir un morceau qui soit tout de suite plus dynamique sur l'album. Voilà, c'est beaucoup plus dur de réussir ce genre de titre, finalement.
Oui, alors c'est vrai c'est un peu une promesse qui n'est pas tenue pour le reste de l'album, parce que le reste de l'album est un peu différent, mais on l'a encore en tête quand on écoute les autres morceaux. Quand je parlais d'un voyage, bah on a ce viatique-là dans les oreilles, et je trouve que les autres morceaux résonnent vraiment différemment une fois qu'on l'a entendu. Donc il est placé assez tôt, d'ailleurs.
Il est placé tôt, il est un peu à part, c'est vrai. Ouais. Il est un peu à part.
Alors il y a un autre aspect de l'album voilà, qui saute aux yeux, c'est la référence au poète. Aux poétesses, notamment. Il y a beaucoup, alors on a parlé, alors Leonard Cohen, grand poète, mais connu aussi pour ses chansons, et sinon d'autres poètes et poétesses, plutôt assez anciens. C'est pas de la poésie très contemporaine.
Plutôt 19e, on va dire.
Voilà. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui travaillait là pour cet album ? C'est quelque chose en général qui... qui fait partie de ton univers ?
Eh bien, disons que pour ce disque, j'ai voulu vraiment partir des chansons, et en partant des chansons, il fallait aussi avoir un texte à la hauteur, en tout cas pour... voilà. Au départ, en fait, je me suis énormément documenté, en fait, en achetant ou en lisant énormément de livres de poésie en bilingue, que ce soit à Vivre d'Art, en achetant des livres à Vivre d'Art à Mémac ou lors de mes différents déplacements. Alors je me revois feuilleter le livre d'Émilie Brontë à Périgueux, par exemple. Voilà, donc en achetant au Havre, à la Galerne, enfin, différents voyages à chaque fois, voilà, c'était l'objet, parce que j'adore rentrer dans les librairies et découvrir ces rayons. Et pour moi, c'était des rayons inconnus, parce que, entre guillemets, voilà, je n'allais pas spontanément vers le rayon bilingue de poésie anglaise ou américaine. Et donc du coup, voilà, j'ai accumulé tout un tas de références et de poésie, et un peu à la manière de ce que on a fait, en tout cas ce que j'ai fait sur Une Émorce d'or de Leonard Cohen, c'est-à-dire que ce sont vraiment des chansons qui figurent, en fait, qui bénéficient de l'apport de ces poésies sur le disque, ont vraiment été faites de façon spontanée. C'est-à-dire que j'ouvrais, c'est un peu comme un jeu, en fait, hein. J'ouvrais une page, et puis ben, je posais, en fait, une mélodie assez rapidement, en fait, sur les chansons. C'était le cas pour The Day of Youth, hein, qu'on a pu écouter en introduction, ou pour Dandelion, une autre chanson. Donc voilà, c'est vraiment venu de façon spontanée. Donc et du coup, à la fois le texte d'un un côté, enfin, la structure du texte tout de suite sonnait déjà comme des chansons, en tout cas. C'est un peu la force des anglo-saxons, de toute façon, là-dessus. Et puis ça amène à d'autres vocabulaires que celui que je pourrais utiliser plus spontanément, mais que un anglais évidemment plus limité que ses auteurs.
Oui, alors bon, on va écouter Dandelion, donc sur un texte d'Emily Dickinson qui s'appelle The Dandelion Palette Tube.
Known soul, it's ever told me. Could it be as this? I'd form a specific treasure, a departing breath. Surfaces may be invested, need a diamond room, general at the dandelion. Would you serve it so? Well, I'm
voilà les chœurs toujours de Louise D.
Exactement.
C'est ça qui nous accompagne sur ces mélodies. Donc Dandelion, on est toujours voilà, dans l'album de City of Exile, Sleeper Hunter. Alors cet album, il a été enregistré et puis il a été aussi produit. Alors là, sur le dernier album, le deuxième, donc Dead in Hollywood, vous aviez eu les services de Peter Hayes.
Peter Hayes n'était pas disponible de toute façon quand pour mixer le disque. Il a beaucoup travaillé sur Dead in Hollywood, donc voilà, Peter Hayes qui est membre du groupe le Black Rebel Motorcycle Club. On était très 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 content de ce qu'il a fait sur le disque. Mais là, du coup, on a longtemps cherché en fait quelqu'un pour produire ce disque. Et puis, c'est venu de façon, encore une fois, assez spontanée. Donc, c'est Mathieu Pigné donc, qui joue de la batterie sur le disque, qui a pensé à la personne qui avait mixé donc un disque qu'on adorait tous, qui s'appelle Lucas. Donc, l'album s'appelle Lucas. C'est un album de Alex Mas, qui est le chanteur de The Black Angels, donc un groupe américain. Et voilà, on adorait tous ce disque. On s'est dit, bah, pourquoi pas le contacter. Et puis, assez naïvement, hein, comme toujours, j'ai envoyé un mail, j'ai cherché voilà, le contact de Brett Orison, qui est le gars qui se cache derrière l'album Lucas, le producteur en tout cas, et donc qui m'a répondu quasiment aussitôt. Hein. Il y a toujours un délai parce qu'il y a le décalage horaire, mais qui m'a répondu et on s'est très vite mis d'accord. Il a aimé tout de suite les prises de David Fontaine, donc, qui a enregistré le disque. Et puis tout de suite il a cerné le truc. Et donc on a pu travailler avec lui sur ce disque, ce qui était vraiment vraiment super. Ce qui est étonnant d'ailleurs avec les musiciens ou les producteurs anglo-saxons en général, en tout cas avec tous ceux avec lesquels on a travaillé, c'est la spontanéité, la facilité en tout cas de l'échange. Donc donc on a pu travailler. Et Brett Orison donc qui vient d'Austin, dans le Texas, donc il habite là-bas. Il a un studio, il travaille beaucoup en analogique. Il fait des groupes comme les Black Angels, donc et puis tout ce qui sort du label Levitation.
Et aussi Jack White aussi, non, travaillé.
Voilà, il travaille avec Jack White, notamment sur la scène. C'est lui qui fait notamment son son de scène. Voilà, c'est quelqu'un de très très agréable. Donc c'est toujours plaisant. Et puis surtout, qui a transcendé encore une fois nos prises. Notamment, il a fait un immense travail sur les voix et sur les claviers. Donc on était vraiment 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 contents.
D'ailleurs, on dit produire concrètement, c'est quoi? Il remixe en fait les choses, il rajoute une couleur, une...
Alors ça prend plusieurs formes, hein, ça peut être tout à fait variable. On a toujours l'idée du producteur un peu à l'ancienne en studio qui va donner une direction un petit peu aux choses. Là on est plus sur déjà le mixage en lui-même, parce que lui il reçoit en fait ce qu'on appelle des mises à plat, donc il reçoit en fait le morceau brut avec toutes les pistes sorties, et puis il en fait il fait des choix déjà, donc c'est pas simplement du mixage, il fait du choix, et surtout il va donner une couleur sur certaines choses. Là les effets notamment sur les effets, donc là les voix, il va faire ressortir des choses plus que d'autres. Et puis ce qui est assez étonnant, c'est que c'était déjà le cas avec Peter Hayes sur Dead in Hollywood, mais on a eu aussi ce cas-là avec Sleeper Hunter, avec le nouvel album, c'est que les anglo-saxons finalement transcendent un peu nos petites imperfections, ce qui donne un côté beaucoup plus humain finalement à la musique. Nous, on aurait une tendance,
à tout lisser.
À lisser, exactement, ouais. À lisser. Mais s'il n'y a pas pire que ça. Et puis, c'est une musique qui a besoin de respirer, hein, la musique rock. Voilà, elle est faite aussi d'imperfections. Donc, c'est des gens qui ont une oreille et qui un savoir-faire, en tout cas, qu'on apprécie énormément.
Ben voilà. Donc on va bon, sur l'album, je crois que on va laisser les auditrices, les auditeurs se précipiter chez leur disquaire ou sur leur plateforme d'écoute pour le découvrir dans son intégralité. On peut peut-être parler. Alors vous êtes un groupe d'albums, mais vous êtes aussi vous avez envie, en tout cas, ou je sais pas, voilà, de développer la scène.
Alors pour revenir simplement au disque, on peut le trouver en fait sur notre Bandcamp. On a un Bandcamp. On tape en City of Exiles ou Bandcamp.
Donc là, on peut l'acheter.
On peut l'acheter, on peut l'écouter. On peut l'écouter aussi sur toutes les plateformes, hein, Spotify, Deezer, Amazon et autres. Et puis, on peut l'acheter en magasin, ce qui est encore une autre chose. Donc, on a notamment, je pense, un très très bon disquaire à Tulle qui s'appelle The Rêve, qui est vraiment le disquaire, on va dire, de Corrèze. Ou un autre, d'autres disquaires comme la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand ou à Périgueux, enfin, en tout cas en voyageant, en suivant nos étapes. Et en effet, ces étapes, on va sans doute les retrouver sur nos dates, parce qu'on a déjà eu une petite expérience de scène. Alors, les musiciens qui m'accompagnent sont beaucoup plus aguerris que moi sur scène. Moi, je suis un guitariste de chambre à la base, donc je sors rarement, mais voilà, on a déjà eu une expérience l'année dernière où on était à deux avec Mathieu Forest. On a fait quelques dates, et là cette année on va en faire d'autres en fin d'année. On jouera notamment le 28 novembre en première partie d'Armand Méliès à Mémac au cinéma Le Soubise. Et puis on aura d'autres dates également dans la foulée du 28 novembre.
Alors pour cette tournée, je crois que vous avez un peu, du coup vous n'allez pas partir en formation complète.
Non, on ne sera pas en groupe.
Voilà, donc c'est quoi un peu cette formation de tournée?
On sera deux ou trois selon les dates, donc toujours avec Mathieu Forest et un autre musicien qui s'appelle Sébastien Miel. Sébastien Miel qui joue la guitare dans le groupe La Maison Tellier et dans le groupe également Animal Triste. Et c'est amusant parce que finalement c'est un peu ce qu'on présentera, c'est un peu ce qu'on prépare actuellement, parce qu'on travaille déjà sur un quatrième disque qui est pratiquement terminé.
Et vous avez une production incroyable.
Je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui nous tient, qui nous booste, donc de la musique en tout cas. Et donc finalement la couleur qu'on proposera sera plus proche, alors, batterie, sans la batterie évidemment, ou la basse, de ce qu'on prépare pour le quatrième disque. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de se confronter à la scène, à la fois dans un souci de progresser, parce que quand on doit s'exercer et jouer devant un public, c'est toujours différent. Et puis aussi tout simplement parce que on a besoin de retrouver des gens en face de soi pour simplement partager notre musique.
Eh bien, on vous souhaite une bonne tournée. Donc on rappelle en tout cas la première date connue, donc à Mémac au cinéma Le Soubise, c'est
le jeudi 28 novembre. On jouera avec Armand Méliès.
Oui, voilà. Parlons-en.
Qui a d'ailleurs fait la photo, en fait, donc qui nous a donné la photo qui a permis de créer la pochette du disque Sleeper Hunter. Et il avait également dessiné la première pochette de l'album, le premier album de City of Exiles, donc l'album éponyme, qui est sorti en 2021. Donc voilà, donc Armand Méliès, qui est un musicien qui a travaillé avec Bachung, sur son dernier album de Bachung, qui travaille actuellement avec des gens comme Daniel Auteuil, qui est un artiste rare, un peu dans la lignée d'un Jean-Louis Murat, hein, du regretté Jean-Louis Murat. Donc voilà, donc on est très très heureux de partager cette scène avec lui. En tout cas, qu'il nous laisse un petit coin de scène.
Bah, on viendra vous écouter et l'écouter lui aussi. En novembre à Mémac. Et alors, moi, je propose qu'on se quitte avec en musique. Alors, peut-être pas le dernier morceau, mais l'avant-dernier morceau, Lonely Road. J'espère que vous ne serez pas trop seul sur cette route de la tournée.
Alors, Lonely Road, d'ailleurs, qui est le premier titre qu'on a enregistré pour l'album.
Voilà. Ah bah voilà. Parfait. Voilà. Merci, Guillaume.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Et Sick.